50 degrés, très bien. Changement climatique, température en ville, ok.
50 degrés, eh ben, c'est ce qui nous attend.
Mais la ville va s'adapter, je crois que la mairie...
On n'a pas le choix.
Les politiques...
De toute façon, l'homme est fait pour s'adapter et on est en train de mettre plein de choses en place justement pour pallier à ça.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être une fois de plus au rendez-vous du Gai Savoir. Zoom Zoom Zen, chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses concepts. Et aujourd'hui, avant de nous pencher sur un chiffre terrifiant, 50 degrés, qui n'est pas la température enregistrée dans la chambre de Manon Mariani quand, après avoir fait un selfie coquin pour vérifier son identité sur X-Hamster, elle accède à sa catégorie préférée, Kinky Daddy. Mais bien la température qu'il pourrait faire à Paris dans la deuxième moitié du 21e siècle. Avant cela donc, un mot peut-être sur le moral général de l'équipe à J+1 de la découverte de notre nouveau sponsor. On était tous si excités à l'idée de vous retrouver pour une nouvelle saison, la quatrième. Nous, historiquement si timides, si habités par le doute, est-ce qu'on fait une bonne émission? Est-ce qu'on est à la hauteur de notre mission de service public? On avait enfin, en cette rentrée, acquis une certaine confiance entre vos messages positifs et les audiences. On se disait qu'on était légitimes, à notre place. Et puis soudain, sans que personne au sein de France Inter n'ait pensé à nous prévenir, on a découvert, en direct, hein, comme vous, notre nouveau partenariat. Oh, peut-être que ça sera avec Dior, s'exclamait Manon. Ou alors avec Jacquemus, trépignait Quentin. Eh ben non, ça sera avec les déboucheurs. Maintenant que dans la cour d'école, les enfants jettent des pierres à ma fille en lui disant « Ton papa, il débouche des chiottes
!»
Désormais que tout semble possible en termes de partenariat, l'équipe vit dans la crainte. Quel sera notre prochain sponsor? Retrouvez Zoom Zoom Zen avec...
Myco Hydralin sans ordonnance, efficace en une seule prise. Myco Hydralin, libérez-vous de la mycose vaginale.
Zoom Zoom Zen, l'homme sandwich de Radio France, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Marion Hochely.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes directrice générale du bailleur social Séquence. Vous gérez 100 000 logements en Ile-de-France qui correspond à 250 000 locataires et vous faites partie du collectif Nos Villes à 50 degrés qui regroupe de nombreux acteurs de l'urbanisme dont l'objectif est d'accélérer l'adaptation aux vagues de chaleur du bâti existant et des constructions neuves à l'échelle immobilière et territoriale. On s'attend donc désormais à vivre sous 50 degrés en ville. Comment ça va se passer? Comment s'adapter? On va en parler ensemble puisque vous y réfléchissez déjà. Juste le temps de vous présenter ceux qui, eux, ne réfléchissent à rien. Ils vivent au jour le jour, cramant le kérosène sans aucun remords. Chaque après-midi, ils débouchent le Gai Savoir. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
À vos côtés, Marion, c'est assez embarrassant, mais afin d'éviter à d'autres cette humiliation inutile, précisons à nos auditeurs que oui, il est désormais nécessaire de confirmer son identité avec un selfie quand vous voulez accéder à un site pornographique. En revanche, non, il n'est pas nécessaire que ce selfie soit forcément salace. Vous pouvez faire
tout
à fait un selfie normal. Vous pouvez faire un selfie normal sans vous sucer un doigt avant de le poser sur votre téton pour faire pchit en fixant l'objectif d'un œil coquin avec la pupille aussi dilatée que celle de Cyril Lacarrière stalkant l'Instagram de Laetitia Casta. Ceci étant dit, Manon, tout à l'heure, vous nous enverrez un mail avec une petite pièce jointe.
Et aujourd'hui, je vous transfère non pas un selfie salace, mais un moment de télé dans ma pièce jointe, une fausse météo qui date d'il y a 10 ans et qui annonce des températures caniculaires pour 2050, sauf que ces vagues de chaleur sont arrivées beaucoup plus tôt que prévu. Vous savez de quoi je vais parler, Mathieu?
Je sais de quoi vous allez parler, mais néanmoins, je suis quand même intrigué et j'ai hâte de vous entendre. Face à vous, Marion, lui, qu'il fasse un jour 50 degrés à Paris, il s'en fout, le yacht de son oncle est climatisé. Son problème existentiel, c'est pas la chaleur, c'est plutôt les méduses.
Oui.
Quentin, chaque
vont
après-midi...
grossir avec le réchauffement climatique.
Elles vont grossir avec le réchauffement climatique, tout fout le camp, de toute façon. On le voit dans cette émission chaque jour. Quentin, chaque matin, pour tromper l'ennui, car quand on est rentier, on s'ennuie beaucoup, vous arpentez les rues de Paris pour aller à la rencontre des passants que vous faites réagir à notre notion du jour.
Et aujourd'hui, Paris, c'était le lieu idéal pour tourner un tel sujet. 80 degrés relevés sur les toits en zinc en pleine canicule, imaginez vivre juste en dessous. J'ai demandé aux Parisiens, Parisiennes, comment ils imaginaient ce qui relève aujourd'hui plus d'une échéance que d'un scénario dystopique. Pardon.
Même en français, commence à avoir du mal.
C'est la fatigue, ça.
C'est la fatigue.
C'est la rentrée.
Semaine 2.
Aux alentours de 16h30, les amis, en attendant qu'il fasse 50 degrés à Paris, nous partirons à la découverte des phénomènes météorologiques les plus fous. Comme la fois où, un jour de chili con carne à la cantine, l'air s'était subitement devenu irrespirable dans l'open space de Zoom Zoom Zen. Juste avant 17h.
Merci Cyril.
Harold Barbé.
Pas de diffamation.
Harold Barbé viendra nous dire comment il se prépare à affronter des températures extrêmes. Juste après 17h, nous verrons comment le PSG se prépare à affronter cette nouvelle saison auréolée de son titre de champion d'Europe. Cyril a déjà pris un Temesta. Mais d'abord, Marion Hochely, si vous préparez à adapter vos bâtiments à des températures dépassant les 50 degrés, c'est que aujourd'hui, alors on se parle, c'est devenu inéluctable. Les études scientifiques sont formelles. On y va tout droit. Peut-être pas 2050, mais deuxième moitié du 21e.
Tout à fait, ben on y est déjà, donc Quentin l'a dit, on observe déjà des pics à Paris sous les toits, notamment à 60 degrés. Il y a notamment un rapport qui a été fait, qui s'appelle Paris à 50 degrés, en 2023, sur lequel on s'est appuyé notamment pour créer ce collectif, et qui montre effectivement que les périodes de canicule à Paris vont s'accentuer. Dans les années 2010, on avait 14 jours de canicule par an, et d'ici les 2050, on passera à plus de 30 jours. Donc on voit qu'on y arrive inéluctablement. Et c'est vrai que pour un bailleur comme nous, un bailleur social qui logeant des personnes essentiellement modestes, ces problèmes sont encore plus accentués. En plus, on a la particularité de gérer un patrimoine dans la durée. Donc on a évidemment une responsabilité vis-à-vis de nos locataires pour trouver des solutions.
Vous allez enlever tous les toits en zinc ?
Alors, on a assez peu de toits en zinc. Après, il y a d'autres leviers sur lesquels on peut agir. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la construction, malheureusement, on a un petit peu de retard sur le sujet. On s'est plutôt concentré sur des questions de chauffage ou autre, mais assez peu sur le confort d'été. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de se mettre avec d'autres acteurs et de créer ce collectif, parce qu'on s'est dit qu'ensemble, on trouverait plus facilement des solutions.
Vous allez tout nous expliquer. 50 degrés, moi je trouve ça pratique, on pourra cuire les merguez directement sur le capot de la bagnole. Telle fut la contribution à haute valeur ajoutée de Cyril Lacarrière, notre rédac-chef climato-sceptique, lors de notre conférence de rédaction. Heureusement, Cyril, depuis vous êtes renseigné, vous avez vu que des preuves scientifiques avaient été opposées aux critiques de votre ami Claude Allègre, et vous êtes en mesure de nous raconter 50 degrés en ville en 2050, d'où ça sort.
Imaginez une ville où sortir à midi est devenu impossible, le bitume colle, ils font même par endroits, les climatiseurs s'emballent, les parcs sont vides, les oiseaux disparaissent et le thermomètre affiche plus de 50 degrés. Ces scènes, vous pensiez que c'était de la science-fiction, c'est maintenant un horizon pour l'humanité. Cette idée, on commence à en parler dans les années 2010, c'est le moment où certaines villes d'Inde ou du Golfe dépassent régulièrement les 48-49 degrés. En 2015, une canicule frappe l'Inde, elle tue plus de 3000 personnes. Le 24 mai de cette année-là, on observe un pic à 48 degrés dans la ville de Kamam, population pas loin de 200 000 habitants. L'idée d'une ville qui ne serait tout simplement plus habitable entre alors dans le débat public.
Mais qui en parle à ce moment-là ?
Le GIEC, évidemment, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Mais aussi des chercheurs, en voici deux exemples. Matthew Huber, spécialiste du climat à l'université de Purdue, et Camilo Mora à Hawaï, parlent du risque d'un seuil létal. Un seuil qui correspond au moment où la chaleur et l'humidité combinées empêchent le corps humain de se refroidir. La pop culture aussi s'empare de cette perspective. Dans Mad Max Fury Road, la ville n'existe plus que comme un mirage brûlant. Dans Blade Runner 2049, les mégapoles suffoquent sous une chaleur étouffante. Même dans les jeux vidéo de SimCity à Cyberpunk 2077, on imagine des cités où le climat détraqué devient une menace quotidienne. Alors, d'où ça sort la ville à 50 degrés, vient de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Marion Hochely. Cyril nous rappelait que cette problématique des 50 degrés en ville, elle est évoquée depuis les années 2010 maintenant, on est en 2025, ça fait un bout de temps. On a mis du temps avant de s'en emparer, avant d'essayer vraiment de réagir. On n'y croyait pas, peut-être.
Tout à fait. Alors, on n'y croyait pas, ou peut-être qu'on avait aussi d'autres priorités. Donc, je l'évoquais, on s'est beaucoup concentré sur des questions de décarbonation, de chauffage, de performance énergétique, de décarbonation des matériaux.
Mais c'était important aussi.
C'était important aussi. On continue à le faire, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas du tout au bout de nos efforts. Mais c'est vrai que les questions, alors peut-être plus particulièrement dans le Nord, parce que c'est évidemment dans des zones plus vers le Sud, on a commencé à s'y intéresser plus tôt. Alors, Séquence fait aussi partie d'un groupe, Action Logement, qui a aussi des filiales en Outre-mer. Et par exemple, notre filiale à La Réunion, elle est beaucoup plus avancée sur ces sujets-là, parce que c'est un sujet évidemment beaucoup plus crucial pour les habitants. Mais c'est vrai qu'en Ile-de-France, on a sans doute du retard sur le sujet.
Vous parlez de retard, mais du coup, il y a d'autres pays, par exemple, qui sont en avance là-dessus, sur lesquels vous pouvez prendre exemple ?
Alors, il y a sans doute d'autres pays, enfin, par définition, voilà, les pays où les températures sont plus chaudes, il y a sans doute d'autres choses qui ont été testées. Bon, c'est vrai que je parlais de La Réunion, par exemple, il y a des choses qui sont beaucoup plus systématisées. Par exemple, quand tu as des constructions de logements, réfléchir à l'orientation, à la ventilation, à la double orientation. Donc ça, c'est des choses qui sont plus naturelles. Alors après, on est en Ile-de-France, dans un espace assez contraint. Nous, on travaille beaucoup sur de la réhabilitation, et la réhabilitation, c'est forcément un peu plus contraint. Pas forcément tout faire.
D'après la revue scientifique de Lancet, revue qui fait référence, Paris serait même la ville d'Europe la plus mortelle en cas de passage aux 50 degrés. Pourquoi ça ?
Alors c'est possible, je pense qu'il y a une petite spécificité parisienne. Alors nous, on n'est pas que à Paris, on est aussi beaucoup dans la région Île-de-France. Bah, déjà, Paris, c'est une ville très dense. Il y a effectivement, vous parliez des toits en zinc, il y a un peu cette spécificité à Paris architecturale. On a aussi, quand on est un bailleur social, c'est aussi une contrainte, les monuments historiques qui regardent aussi certains paramètres pour réaliser des réhabilitations qui sont relativement contraignantes. Par exemple, voilà, si je peux citer un exemple sur des choses qui fonctionnent, par exemple ce qu'on appelle les cool roofs, c'est-à-dire de...
Les quoi ?
Les cool roofs, donc c'est de mettre de la peinture blanche sur les toitures pour faire baisser la température.
En face de chez moi. Mais c'est pas de la peinture qu'ils ont mis, ils ont mis des bâches blanches.
Alors peut-être que ça fonctionne aussi avec des bâches, nous. C'est plutôt un système qui fonctionne avec de la peinture. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut déployer de manière massive à Paris.
Mais ça fonctionne.
À cause des...
Ça fonctionne.
Oui, c'est du blanc.
Tout à fait.
À cause des problèmes, des problématiques des monuments historiques.
Voilà.
Mais là, il va se poser une vraie question qui est vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une très belle ville, mais pour ne pas qu'elle devienne ville musée, il va peut-être falloir corriger les bâtiments, même si ça fait rouspéter les architectes des bâtiments nationaux, mais pour simplement que les gens puissent vivre et respirer.
Tout à fait, ben nous ça fait partie de notre travail au quotidien, d'essayer de trouver un moyen terme entre les enjeux patrimoniaux et le confort des locataires.
Si on reste sur cette notion du bâti, cette adaptation elle passe par le matériau utilisé?
Alors, elle passe par vraiment des choses qui peuvent être très différentes. Donc, comme je le disais, nous, on est relativement contraints en Île-de-France parce qu'on travaille beaucoup sur de la réhabilitation, donc on ne peut pas forcément tout faire. Nous, les choses sur lesquelles on travaille en priorité, donc c'est ces systèmes de cool roof qui fonctionnent. Les systèmes, alors, ça va paraître un peu basique. Alors, moi, je suis originaire du sud de la France, tout le monde a des volets. Mais en Île-de-France, il y a assez peu de bâtiments qui ont des volets. Or, les occultants, c'est quelque chose qui est très efficace.
On remet des volets partout.
Donc, on remet des volets, voilà. Donc,
c'est pas moche aussi.
Assez simple. Ça peut passer aussi par du traitement de vitrage, des circulations d'air, des brasseurs d'air aussi, qui est quand même toujours mieux que la clim et qui est très efficace.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
La directrice générale du bailleur social Séquence, celui-là même qui avait retoqué le dossier de Quentin quand il cherchait un appart à Bagnolet, est avec nous. Marion Hochely est toujours là pour se projeter vers une ville où les températures pourraient monter jusqu'à 50 degrés dans la deuxième moitié du siècle. Comment peut-on s'adapter à ça? C'est la question qui se pose cet après-midi. Marion, le logement social, est-ce que c'est le parent pauvre de la transition écologique ou les choses bougent?
Alors, moi je dirais au contraire, parce que quand on est bailleur social, on gère des logements dans la durée. Nous, on a du patrimoine qui il y a 40 ans, on loge des gens pendant très longtemps, pendant toute une vie parfois, des locataires en plus qui sont modestes, et c'est vraiment notre rôle aussi de faire en sorte que ils puissent ne pas avoir trop d'augmentation de charges. Donc je pense qu'au contraire, alors c'est peut-être pas forcément une idée très répandue, mais on est assez souvent en avance de phase sur certains sujets, aussi parce que comme on est souvent on a la propriété entière de bâtiments, on a la capacité de prendre des décisions pour réaliser des améliorations, des réhabilitations.
Et des gros investissements, quoi.
Exactement.
On parle quand même souvent de passoires thermique. Concrètement, ça touche qui et c'est quoi la vie quotidienne dans une passoire thermique qui existe aussi?
Alors, les passoires thermiques, on en a de moins en moins, et je pense que par rapport au parc privé, enfin c'est même pas je pense, il y a des chiffres, on est bien plus avancé. Donc vous savez qu'aujourd'hui, sans rentrer trop dans la technique, on a les logements qui sont considérés comme passoires thermiques, donc qui sont classés F et G, donc avec la moins bonne performance énergétique, qui ne peuvent plus être mis en location. Donc nous, aujourd'hui, il nous en reste quelques milliers à peine dans notre parc, donc sur 100 000 logements, c'est très peu, et en général, c'est des situations très particulières, justement monuments historiques parfois, mais on a vraiment un plan d'action très, très ambitieux.
Mais ça, c'est un volontarisme de votre part ou c'est l'État qui vous fixe, qui vous dit, vous, de toute façon, dans les bailleurs sociaux, vous êtes obligé d'être en B, C ou
D
maximum?
Il y a plusieurs choses. Il y a une trajectoire nationale stratégie bas carbone. On appartient aussi à un groupe Action Logement qui a une ambition très forte en matière de RSE, de décarbonation. Donc, il nous fixe plutôt des objectifs en avance de phase. Et puis, simplement, en tant que bailleur, on considère que ça fait partie aussi de notre rôle. On est une société à mission. On est là aussi pour accompagner nos locataires et améliorer leur confort.
Alors, en ville, il y a plein de problèmes. Il y a un rapport commandé par la ville de Paris il y a 2 ans qui met le doigt sur ce qu'on appelle les îlots de chaleur. C'est quoi un îlot de chaleur?
Alors, un îlot de chaleur, c'est une zone en général urbanisée où vous avez un sol très imperméabilisé et qui crée un effet de chaleur plus forte que dans les zones contiguës. Donc effectivement, on a souvent cet effet du fait de l'imperméabilisation des sols. Donc ça fait partie aussi des sujets, ça fait partie des leviers qu'on peut activer pour faire baisser la température, de désimperméabiliser les sols.
Comment on désimperméabilise les sols?
Alors, il y a plusieurs leviers. Bon, déjà, on enlève le bitume et on peut mettre des plantations plantation à la place. Alors là aussi, ça nécessite de réfléchir à quelle plantation on va mettre, parce qu'il ne s'agit pas aussi de mettre de la végétation qui va nécessiter beaucoup d'eau, qui ne va pas.
Là,
forcément...
s'il fait 50 degrés en 2050, il va falloir planter des palmiers.
Alors des palmiers. Beaucoup alors il y a d'autres essences qui résistent bien, notamment des essences méditerranéennes, des charmes, du romarin. Donc on n'aura plus besoin d'aller en Provence.
On pourrait pour ramasser le romarin comme
de
ça.
De la lavande et du romarin.
Ça sentirait bon.
En sortant du métro, hop, j'attrape mon romarin.
Mais justement, la ville de Paris prévoit de mettre en place 1300 îlots de fraîcheur. Ça consiste en quoi ces îlots de fraîcheur ?
Alors, je ne pourrais pas me prononcer précisément sur la ville de Paris, mais c'est ça en fait, ça consiste à désimperméabiliser des zones, planter à la place. Vous avez aussi des systèmes, alors, parce que ce n'est pas possible forcément de mettre de l'herbe, des plantations à tous les endroits, mais vous pouvez aussi, vous avez aujourd'hui des systèmes de pavés qui sont poreux et qui sont beaucoup moins, enfin voilà, pour lesquels on a beaucoup moins cet effet îlot de chaleur que le bitume classique.
Ça ne suffit pas de planter des arbres ?
Ah non, ça suffit pas. Non. C'est une combinaison
de plein de facteurs.
On a aussi, tiens, pour le village olympique à Saint-Denis, ils ont testé un système innovant sur les pavés. Ils ont incorporé des coquilles d'huîtres qui ont la propriété de retenir l'humidité. Et donc, ça fait un petit effet de fraîcheur en été.
J'espère que c'était des Gilardeaux. Et vous, imaginez-vous vivre dans une ville où il fait 50 degrés. Quentin s'en fout, il pourra toujours aller chercher la fraîcheur à Alençon. Il vous a posé la question néanmoins.
Paris, 11e, il est presque midi. Je remonte le boulevard Diderot qui laisse apparaître au loin les nombreux arbres qui encadrent les deux colonnes de la place de la Nation. Ça fait presque 10 ans que je suis à Paris et il faut quand même bien reconnaître que le lieu s'est complètement transformé. J'arrête ce couple presque à la retraite.
Mais montrez-nous de votre carte de journaliste. 50 degrés. Pff, réchauffement climatique.
Ça nous inspire qu'on va se sauver. Alors c'est pour ça qu'on rentre dans la campagne.
Ouais. Vous étiez où sans indiscrétion ?
Vers Fontainebleau.
Près de Fontainebleau.
Près d'une rivière.
Ouais.
Donc on pourra sauter si vraiment il fait 50.
Elle est avocate, lui est architecte d'intérieur. La maison à la campagne pour fuir la chaleur est déjà appréciée. Je lui demande à lui quel serait le logement idéal pour encaisser le dérèglement climatique et les fortes chaleurs.
On pourra peut-être les fabriquer dans des villes nouvelles, mais est-ce qu'on acceptera que Paris devienne une ville nouvelle ? Pour que ça soit vraiment efficace, il faudrait que les bâtiments, dès le départ, soient conçus pour.
Donc il faudrait tout raser ?
Bah, c'est ce que Le Corbusier a proposé à une époque, de tout raser et voilà. Et on le ferait pas, mais il y a des gens qui l'ont proposé à une époque. Mais on le fera jamais.
Il me parle des choses qu'il voit apparaître ou des idées qui pourraient venir.
Des revêtements de sol.
Oui, bien sûr, des revêtements de sol. Si les routes étaient blanches, mais est-ce qu'on a envie que tout soit blanc ? Si les toits étaient blancs, il y a des essais, je crois que c'est à Los Angeles, où ils repeignent les routes en blanc.
Ça aurait fait plaisir à Eddie Barclay.
Vous connaissez Eddie Barclay, vous avez quel âge, Quentin ?
C'est la bonne question
tout
me concernant.
Le problème de
Quentin. Team Benjamin Button, forever. Ici, je rencontre ses deux parents et leur petit bonhomme de 3 ans et demi.
La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer.
Vous chantez vachement bien.
On a beaucoup d'entraînement. Hein.
Ils ont l'air en balade. Est-ce qu'ils habitent Paris ? Oui, ils sont du quartier.
50 degrés, très bien. Changement climatique, température en ville, ok. La ville va s'adapter, je crois que la mairie...
On n'a pas le choix.
Les policiers
de toute façon, l'homme est fait pour s'adapter et on est en train de mettre plein de choses en place justement pour pallier à ça.
Voilà, au niveau de la ville, il y a eu pas mal de travaux, il y a eu pas mal de chantiers d'adaptation, mais bon, est-ce que ça sera suffisant ? Non, mais enfin, c'est toujours mieux que rien.
En l'écoutant, sa compagne réagit.
Après, il y a des interdictions, il y a des lois, des machins, mais c'est vrai qu'on ne va pas laisser les gens, notamment les personnes âgées, les enfants. Nous, on a un enfant qui est un peu différent. Et c'est beaucoup de choses, c'est aussi pour ça qu'on reste à Paris, c'est qu'il y a tous les soins pas loin, quoi.
Ça se voit pas de prendre des primes à bord ?
Non, mais il a 3 ans et demi, puis il parle pas, il a des petits problèmes, notamment d'autisme, etc.
Ok, ouais, donc la ville est de toute façon un lieu plus propice.
Alors oui et non, parce que lui, il est heureux dans la nature, sauf que dans la nature, il y a les déserts médicaux, il y a plein de choses comme ça, et c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous, etc. Donc nous, à ce stade, on reste à Paris.
C'est vrai qu'on ne pourra pas toujours fuir la ville, pour plein de raisons, et que les plus vulnérables seront toujours les plus touchés. Jean a 89 ans. Il a vu 89 étés, dont celui de 2025.
J'en ai vécu des pires, parce que j'ai vécu un certain temps au Sahara, et j'ai connu 54 degrés météo.
Oui. Ah oui, bon.
54.
Comment on fait à 54 degrés ?
Eh bien, on est à l'abri et on ne sort pas. Et on boit 10 litres d'eau par jour obligatoirement. Interdiction de sortir. On ne peut pas vivre à 54 degrés météo, on ne peut pas vivre.
On ne peut pas vivre. Ma dernière rencontre, c'est la Parisienne. Parisienne jusqu'au bout des ongles, de la Noé ascendant Mariani. Ça se voit, ça s'entend. Est-ce qu'elle est parisienne ?
Ouais, moi j'habite à Pantin, donc presque. Ouais, j'ai grandi dans le 20e. Je suis une... Enfin, en vrai. La bobo de base, quoi. Le cliché.
Est-ce que la bobo de base peut se passer de Paris ?
Non.
Si elle devient inhabitable à 50 degrés, quoi.
Bah, en même temps, Pantin, c'est mieux que Paris maintenant, donc ouais, je peux m'en passer. Effectivement, le canal, ça change tout.
Oh là là, j'adore. Mais alors, à 50 degrés, que ce soit avant ou après le périph', ce sera quand même difficile.
C'est pas des questions que je me pose, c'est pas les sujets que j'ai en tête, c'est pas les préoccupations que j'ai, et c'est peut-être la honte de dire ça, en fait.
Parce que c'est plutôt une forme de déni, ou de pas vouloir le regarder, parce que...
Oui, c'est une forme de déni. Et je suis tellement terrifiée que pour limiter mon anxiété de tous les jours, je ne m'informe pas.
L'éco-anxiété provoque-t-elle une forme de déni qui se retournerait contre nous ? Après tout, qu'est-ce que ça change de s'y préparer ? Valentine, de toute façon, elle a déjà la clim.
Mais c'est pas une clim... c'est une clim portable, quoi. Enfin, mais elle est top, hein.
Ah, avec le tuyau qu'on met par la fenêtre ?
Avec le tuyau qu'on met par la fenêtre.
Ah oh ouais, non, c'est pas vraiment une clim, ça.
Eh bah, purée.
Ça marche ?
Je veux dire qu'on était bien chez moi, hein. Je sais pas si c'est très écolo d'avoir la clim. Ah, mais moi, je suis pas écolo.
Vous avez déjà eu très chaud ?
J'ai jamais été sous 50 degrés, moi.
46 ? 47 ?
47 degrés à Paris ?
Il faisait 46 degrés dans la 6 en 2019. Les gens...
Ah, mais moi, la 6, c'est pas une que j'ai l'habitude de prendre.
Et moi, je quitte Nation avec cette impression étrange.
Pire que vous, Manon.
C'est incroyable. On l'embrasse.
C'est vrai. Je quitte Nation avec cette impression étrange. 50 degrés, ce n'est plus un scénario, c'est une échéance. Et la vraie question n'est pas où fuir, mais qui restera ?
Merci Quentin. Marie-Angélie, est-ce qu'il y a une forme de, à l'instar de cette dernière rencontre qu'a fait Quentin dans la rue, est-ce qu'il y a une forme de déni chez certains citadins qui se disent qu'ils aiment tellement leur ville que peu importe la température, ils ont du mal à se projeter, ils pensent qu'ils resteront toujours ?
Sans doute, hein, si on écoute votre reportage, mais c'est vrai que nous, on se doit aussi, on est des
d'anticiper.
Professionnels, on se doit d'anticiper pour la suite, parce que c'est des choses qui vont prendre du temps, donc quand les journées à 50 degrés vont s'accentuer, il faudra qu'on soit prêt, et déjà, on est en retard, donc moi, je pense que c'est pas forcément, le NEDI n'est pas forcément une solution.
Jean, qui parle de son expérience au Sahara, est-ce qu'il a raison de dire qu'il est impossible de vivre normalement à 50 degrés ? Ça faut peut-être le rappeler ?
Même avec des cool roofs.
Ben, je pense que c'est impossible, effectivement. Donc, y a un moment où peut-être on n'arrivera pas à s'adapter. En tout cas, on essaye.
On avait fait une émission sur la végétalisation urbaine. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, à notre petite échelle, ça sert à quelque chose de mettre de la verdure sur nos balcons, de planter des plantes, etc. ou pas du tout ?
Il faut laisser les professionnels faire.
Bon, après, à très petite échelle, je sais pas. Après, je pense que ce qui est important aussi, c'est de regarder un petit peu les essences qui sont utilisées. Et c'est vrai que, bon, après, toutes les plantes qu'on peut mettre, ça, c'est toujours utile. Mais c'est vrai que c'est quand même plus intéressant de le faire à grande échelle.
J'étais à Nation et je voyais le revêtement du cercle qui entoure la place de la Nation pour les piétons. Et le revêtement est plus clair. Alors, il n'est pas complètement blanc, mais il est plus clair. Est-ce que ça, c'est déjà bien ? Et est-ce qu'on sera prêt à, le monsieur le disait dans le micro-trotte, est-ce qu'on sera prêt à peindre en blanc les routes ?
Bah, c'est une question qui va se poser. Après, je pense que Paris a déjà connu des transformations au XIXe siècle qui, peut-être à l'époque, paraissaient impensables. Donc,
moi, mais c'est une option, ça ? Ça va être sur la table ?
S'adapter.
Ça pourrait être voté ?
Alors, il faudra en parler avec la ville de Paris, mais moi, je pense qu'à un moment, on n'aura pas beaucoup de choix. Et bon, en tout cas, nous, ce qui nous importe dans ce qu'on fait là, dans nos villes à 50 degrés, c'est aussi d'arriver à mesurer l'effet de tout ce que vous citez sur la végétalisation, etc. L'enjeu, aujourd'hui, bon, on sait que, par exemple, je parlais du coule rouge, je parlais des volets, on sait que ça a un effet, mais aujourd'hui on ne sait pas le mesurer. Et un des enjeux qu'on a avec tous les acteurs avec qui on travaille, c'est vraiment de faire des tests et de mettre des capteurs dans les appartements pour voir si de combien ça fait baisser la température.
Personne ne le fait, ça, aujourd'hui ? Enfin, on parle que de réchauffement climatique, personne ne le fait ?
Encore une fois, je pense qu'on a un peu de retard sur ce sujet.
Un mot, parce qu'on parle beaucoup de réaménagement du bâti existant, mais aujourd'hui, quand on construit à la base un immeuble, un nouvel immeuble qui sort de terre, il faut respecter un cahier des charges qui doit être assez complexe, non ?
Tout à fait. Et ça fait partie des sujets, pour le coup, qu'on anticipe, effectivement. On met systématiquement des volets, on réfléchit aux ventilations. Après, il y a des choses qui sont possibles ou pas, selon les configurations des immeubles. Mais pour le coup, dans nos nouvelles constructions, ça fait vraiment partie des sujets qu'on prend en compte.
Il y a quand même un paradoxe, c'est que quand on regarde Paris aujourd'hui, les nouveaux bâtiments récents qui sortent de terre sont tout vitrés, tout en verre. Est-ce que c'est le mieux pour accueillir une canicule ?
Alors, c'est pas bien du tout. Et d'ailleurs, c'est aussi lié... Alors, le temps du bâtiment est souvent assez long et c'est souvent lié à
des
projets qui ont été validés il y a 10 ans, 15 ans, à une époque où ces questions-là étaient moins prégnantes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des acteurs de l'aménagement qui, justement, commencent à revoir un peu certains projets qui avaient pu être validés avec les communes il y a 10-15 ans, parce que, justement, les surfaces vitrées ne sont pas du tout adaptées à ces conditions.
Et c'est pas le serpent qui se mord la queue, parce que, du coup, les projets qui sont validés aujourd'hui vont être viables aussi dans 15 ans ?
Bah après, il faut peut-être aussi apprendre à travailler différemment, c'est-à-dire ne pas hésiter à revoir les projets. Je pense qu'aujourd'hui, là, le projet que j'ai en tête, c'est un projet à Issy-les-Moulineaux. Je pense que voilà, la commune a bien compris qu'elle avait intérêt à revoir. Pourtant, il y avait un geste architectural, la façade était très belle. Mais je pense que voilà, on doit penser aujourd'hui
avec
différemment.
Les températures à venir.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Comment vivre par 50 degrés? Je crois, à la lueur de cette première demi-heure d'émission, que nous n'avons pas encore bien mesuré tous les enjeux de cette dérive climatique. Que deviendrait Lourdes? Se demande Pierre Courade. Les cierges fondraient-ils? Une question qui n'a jamais effleuré l'abbé Chibard, qui enlève sa soutane dès que la température dépasse les 16 degrés dans le confessionnal. Y aura-t-il encore des vignes pour que Manon puisse s'étancher sa soif? Cyril Lacarrière pourra-t-il encore porter ses fameuses chemises blanc du Nil en disco club sans être aussi trempé que Manuel Valls à l'université d'été du PS en 2015? Pour ne pas s'évanouir durant ses micro-trottoirs, Quentin devra-t-il porter une casquette ventilateur, ce qui marquera la fin de son couple, sa compagne qui bosse dans la mode ne pouvant tolérer ça? Oui, bien des questions se posent. Alors pour se rassurer un peu, je vous propose d'aller voir là où c'est pire. Avec un quiz consacré à des phénomènes naturels encore plus extrêmes que la fois où Cyril avait flingué l'atmosphère de l'open space après la journée Chili con carne fiesta à la Cantoche.
C'était une catastrophe.
Jouons
c'était horrible.
Au Zoom Zoom Test, les amis. Zoom Zoom Test dont la première question nous entraîne...
Cyril me dit que j'ai moins un.
En 1815, Napoléon vient d'abdiquer, la triste bataille de Waterloo se profile, Gonzague Lacarrière, l'ancêtre de Cyril, préfère s'auto-empaler avec sa lance que de se soumettre aux Anglois. Et pour nous...
Yes.
Oui, on a l'archive, yes, on a l'archive, grâce à Samia Jedi. Et pour ne rien arranger, en Indonésie, le volcan Tambora entre en éruption. Éruption si violente qu'elle décapite la tête du dit volcan pour créer un cratère de 6 km de diamètre. Mais il y a pire. L'éruption fut suivie d'une année sans été et de 3 hivers volcaniques. D'une famine qui fit plus de 100 000 morts sur 3 continents. Ou d'une mutation génétique qui explique que l'orang-outan, aujourd'hui, est roux.
Ah,
les trois.
Des trois.
Ah, j'essaye.
Vous êtes allé voir Nénette au Jardin des Plantes. Et certainement, vous avez lu dans les crypto, ils expliquent cette histoire. Pourquoi Laurent Houtan est roux? Vous vous souvenez de ça?
Oui.
C'est une mauvaise réponse de Quentin Lévy. Bonne réponse de Manon. Réponse A et B. Trois années successives.
Mais elle n'a pas du tout dit ça.
A et B, c'est ce que j'ai dit.
Mais non, pas du tout.
Alors, pas de victoire. Pas de victoire. Pas de point. Pas de point pour personne. Trois années successives sans été, comme en Bretagne. En cause, les poussières volcaniques dégagées par l'éruption qui sont venues obstruer l'astre lumineux. Et je ne parle pas de Cyril, mais bien du soleil. De la neige en plein été en Italie, la photosynthèse complètement chamboulé, résultat une famine et plus de 100 000 morts à la clé, sans compter Gonzague Lacarrière qui pendouillait tristement au bout de sa lance, devançant ainsi son arrière-arrière-petit-fils en termes d'infiltration. Mais attention, car nous changeons totalement de décor, direction Dallol. Vous voyez le Cap Vert? Eh bien, imaginez encore pire, c'est Dallol, dira Pierre Courade, notre rédacteur en chef adjoint, Globetrotter. Selon vous, Manon Quentin, pourquoi
Globetrotter,
ça marche aussi.
Oui, ça marche aussi.
Globetrotter aussi, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas s'épancher là-dessus.
Manon Quentin, parle beaucoup de langues, c'est pour ça.
Pourquoi Pierre est-il si critique envers Dallol? Parce que Pierre est un être intrinsèquement mauvais qui ne peut pas s'empêcher de tout critiquer, même la dernière édition du Guide Pudelot, où c'est l'endroit le plus chaud de la planète. Dallol, avec une température moyenne de 34,6 degrés. Ou Dallol, c'est là qu'on recense les plus violentes tempêtes de grêle, avec des grêlons pouvant atteindre la taille de la mauvaise foi de Pierre Courade.
A et B.
A et C pour être des très bonnes réponses. Ah, j'hésite à... Mais malheureusement, c'est là. Vous avez dit quoi quand
A et B.
A et B. Excellente réponse, effectivement. Puisque
des grêlons,
là, évidemment.
Du poids de...
Ça
c'était du
pas.
Poids, Pierre Courade.
Avec ce qu'il a pris cet été, ça m'étonnerait.
Ouais, c'est vrai.
Aux portes, c'est mesquin. J'ai envie de vous en dire un
méchant.
Point.
C'est méchant, ah ouais. On critique pas le physique.
Car vous savez, la méchanceté ne paye pas.
Ah bon.
Un point en moins. Aux portes du désert éthiopien, dans les crins de geyser, là où le farniane devient aventure, Dallol. D'ailleurs, on n'y vit pas. Impossible, avec une température moyenne de 35 degrés et des pointes à plus de 50. C'est plus un sauna à ciel ouvert qu'autre chose, mais là encore, pas un sauna comme Pierre les affectionne du côté du boulevard Rochechouart. Mais il y a pourtant pire qu'être bloqué à Dallol, être coincé dans un pyro-cumulonimbus, qui est, comme vous le savez parce que vous suivez Serge Zaka sur Instagram,
un chapeau
comme un cumulonimbus, comme un cumulonimbus, mais en pire de son nom, un nuage de pluie brûlante ou un nuage créé par un méga-feu qui génère sa propre météo.
Ah,
c'est. J'ai pas écouté parce qu'on parle en régie.
Il y a passé.
Ah bon?
A ou B?
Ah bah B alors.
Ah bah si, il y a la réponse.
Bah c'est, bah merci.
C'est une bonne réponse de Manon.
Non, mais
effectivement, c'est ça.
Il essaye de m'arnaquer.
Un nuage créé par un méga-feu qui génère sa propre météo, un peu de Ludovic Bourse pour rafraîchir l'atmosphère, parce que le pyro-cumulonimbus, c'est ce nuage formé par les méga-feux qui peut persister pendant plusieurs mois en occultant la lumière du soleil et donc rafraîchir le climat, comme dans le cas de l'éruption du Tambora évoqué dans la première question. Vous n'avez pas oublié évidemment Quentin. Mais notre voyage au Gai Savoiristan n'est pas tout à fait terminé. Pour vous départager, un petit vrai-faux des familles. Attention. Top. Vrai ou faux, un épisode Cévenol est une délocalisation d'un si grand soleil à Saint-Jean-du-Gard.
Faux.
Faux, évidemment, c'était pour zéro point. Mais c'est quoi un épisode Cévenol? Vous savez ce que c'est un épisode Cévenol?
Non, mais il y a des propositions.
Il n'y a pas de proposition, je vous le demande.
C'est une canicule. Un épisode.
Ah, je crois que notre invité Marion sait.
Moi aussi, je suis originaire de Montpellier. C'est quand on a un gros orage avec beaucoup de ruissellement.
Des fortes pluies générées par de l'air humide venant de la Méditerranée. C'est une bonne réponse et c'est 12 points qui sont attribués à notre invité.
Ah oui.
Parce que c'était une question à 12 points, je ne vous l'avais pas dit. Vrai ou faux, l'échelle de Scoville? L'échelle de Scoville mesure l'intensité des cyclones.
Mais non, c'est le.
Non, c'est faux.
C'est le piment.
Oui, exactement.
Bien joué, Quentin.
J'ai dit faux. Mais non, mais si, mais parce qu'on regarde Hot Ones, donc on le sait.
L'échelle de Saffir-Simpson mesure les écarts de température au sein d'une même journée.
Vrai. Pardon.
Faux.
C'est l'échelle qui mesure l'intensité des cyclones. Il faut suivre.
Ah, pardon.
Vrai ou faux, il existe une échelle qui mesure la hauteur des vagues.
Vrai.
Faux.
Vrai, c'est l'échelle de Douglas, même si Pierre estime qu'elle est mal faite. Vrai ou faux, dans la vallée de la mort, les pierres se déplacent toutes seules à cause de la météo.
Vrai.
Ah, vrai, oui, ça c'est vrai, ça.
Essayez de réfléchir.
Si, c'est vrai.
Si, c'est vrai, mais parce que.
C'est une bonne réponse de Manon Marigny, effectivement.
Il n'y a pas de vent.
Sous l'effet de la glace et du vent. Beaucoup de bonnes réponses pour Manon Marigny. Mais une seule personne a marqué 12 points dans ce quiz, c'est notre invité. Victoire de Marion Hochely. Bravo.
Bravo. Bravo.
Les applaudissements virtuels du public. Aimons-nous vivants, disait François Valéry, que Quentin connaît plus que Paul. Il avait diablement raison, car comment survivre par 50 degrés en ville? C'est pourtant le sort qui pourrait attendre des villes comme Paris dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Alors certains s'y préparent déjà, notamment les bailleurs sociaux. Marion, vous êtes directrice générale du bailleur social Séquence. Pour échapper à la fournaise en ville, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement envisager de déménager à la campagne? Est-ce que c'est encore raisonnable de construire et même, j'ai envie de vous dire, de réaménager le bâti en ville?
Oui, alors en Ile-de-France, c'est compliqué parce que je pense qu'il y a quand même, on est quand même dans une région qui est un poumon économique. On est en train de construire des transports justement pour essayer de limiter les temps de déplacement. Donc ça me paraît assez peu réaliste de déménager tous les habitants de l'Ile-de-France. Donc voilà, moi je pense que la bonne solution, c'est plutôt d'essayer d'adapter notre cadre de vie. Et encore une fois, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Paris intramuros, qui est peut-être un cas un peu spécifique, mais je pense que vraiment, avec le Grand Paris, les réseaux de transport qui se construisent, je pense qu'on a aussi la possibilité à sans doute desserrer un peu la ville, rendre la ville plus agréable à des endroits peut-être un petit peu plus éloignés, et avec les transports qui sont en train de se construire, permettre de rapprocher les personnes de leurs activités, de leur travail. Donc voilà, moi je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler.
J'avais préparé une question qui disait, est-ce que ces fortes chaleurs qui vont s'amplifier, elles vont créer finalement une sorte de fracture sociale entre ceux qui pourront y échapper et ceux qui ne peuvent pas y échapper? Mais finalement, en vous écoutant, vu que les bailleurs sociaux ont l'air relativement en pointe sur le sujet de la transition climatique, est-ce que en fait, les gens qui sont dans le social vont être peut-être mieux logés que certains dans le parc privé, qui louent dans le privé, où on peut trouver encore des diagnostics de performance énergétique catastrophiques?
Alors, mieux logé, je ne sais pas, parce qu'effectivement, on va essayer d'adapter notre bâtiment. Les fortes chaleurs, elles vont quand même si on arrive à diminuer la température de 50 degrés, on aura quand même de fortes chaleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui me frappe. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens, vous en avez parlé, je crois, dans le micro-trottoir, qui installent la clim dans leur logement. Après, bon, évidemment, c'est pas écolo, ça entraîne des consommations énergétiques plus élevées. Donc, c'est sûr que je pense que nos locataires dans le parc social, ils ne vont pas avoir les moyens d'installer de la clim partout. Donc, encore une fois, nous, on est plutôt vraiment dans l'adaptation, l'anticipation. On pense vraiment qu'en combinant les différentes solutions qu'on a évoquées, peindre les toitures en blanc, les brasseurs d'air qui sont beaucoup moins consommateurs d'énergie.
Mais c'est quoi un brasseur d'air?
C'est un ventilateur.
Ah, c'est un ventilateur, tout simplement. Voilà. Ah, oui.
Mais là, c'est une version un peu idyllique, parce que si on réfléchit, il y a plein de gens qui sont dans une mauvaise situation dans des logements. Je parlais de passoires, je ne parle pas forcément de votre parc à vous, mais en général, les gens vivent très mal les périodes de canicule, que ce soit à Paris ou dans des barres HLM, etc. Le quotidien de quelqu'un qui vit dans une passoire thermique et qui aura 50 degrés, est-ce qu'il pourra encore habiter chez lui?
Eh ben c'est encore une fois, c'est notre objectif. J'ai conscience qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça, voilà, quand on est en période de forte chaleur, on n'a pas un logement adapté, c'est très compliqué. Mais justement,
on peut pas être chez soi, qu'on le dise.
Ça dépend des situations. Après, on peut aussi, voilà, si on ferme les volets pendant la journée, enfin, il y a quand même des choses qu'on peut faire pour améliorer la situation.
Ça dépend de l'orientation, si vous êtes plein sud.
Ça dépend
de
l'orientation. Enfin, voilà, il y a toujours le cas de la personne qui est plein sud avec un appartement pas traversant sous le toit en zinc. Bon, là, c'est sûr que c'est invivable, mais bon.
Mais après, ça dépend aussi, mais des âges des personnes. Les personnes âgées ne vivent pas du tout pareil que des personnes de 30 ans ou même que des jeunes enfants. Ce qu'on entendait aussi dans le micro-trottoir, des familles où il y a plusieurs catégories d'âge, c'est très compliqué pour elles.
Tout à fait. Non, mais j'ai tout à fait conscience du problème. Après, je n'ai pas forcément de baguette magique et de solution miracle, mais en tout cas, on essaye de s'améliorer.
Vous semblez fan des brasseurs d'air, mais il y a quand même une polémique cet été, un débat en tout cas. Est-ce qu'on installe la clim d'office dans les nouveaux bâtiments ou quand on rénove ? Parce qu'effectivement, du coup, pour les gens, pour l'individu en lui-même, c'est forcément mieux. Il va être rafraîchi si on est par 50 degrés. En même temps, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque ça contribue au réchauffement climatique aussi.
Exactement. Moi, je pense que notre rôle, c'est plutôt d'essayer de trouver des solutions alternatives qui sont moins consommatrices en énergie.
Vous n'êtes pas pour la climatisation ?
Je pense que ça peut être une solution peut-être à court terme, dans des cas spécifiques. Alors évidemment, je ne dis pas quand vous avez des personnes âgées, des jeunes enfants, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas mettre la clim. Enfin, voilà, après, chacun s'adapte aussi en fonction de sa situation. Mais en tout cas, nous, en tant que professionnels responsables d'un parc important de logements, je pense que notre rôle, c'est plutôt d'essayer de trouver des solutions plus durables et alternatives.
Est-ce que le marché de l'immobilier à Paris, sous 50 degrés, peut s'écrouler ? Je pense aux gens qui ont investi dans des appartements, etc. Est-ce que le marché va baisser avec le fait qu'elle devienne invivable ?
Après, je ne sais pas s'il y aura Bon, c'est difficile à prévoir parce qu'il y a tellement de choses qui jouent, notamment en ce moment sur l'évolution du marché immobilier. Mais bon, après Paris, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Paris, mais il y a plein de villes en fait qui sont dans les mêmes situations. Donc bon, voilà, à part aller tous habiter à la campagne, bon, on aura quand même besoin, enfin, je pense pour des raisons professionnelles, de rester quand même au moins en partie en ville. Donc je ne sais pas s'il y aura un cas particulier à Paris.
Quentin, vous avez bien fait d'investir à Alençon. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. À l'heure de découvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Et un bulletin météo aujourd'hui.
Demain matin, les températures seront déjà très élevées. Et dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés. 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans les capitales.
Alors non, ce n'est pas un bulletin météo d'Evelyne Delia qui date de cet été. Cet extrait date en fait de 2014. Sur TF1, la présentatrice dévoile une fausse carte de la météo du 18 août 2050. Le but, montrer à quoi pourraient ressembler nos étés en cas de réchauffement climatique non maîtrisé. Sur la carte, on l'a entendu, des températures qui semblaient incroyables pour l'époque. Plus de 40 degrés dans de nombreuses régions, plus de 43 degrés dans le sud-ouest, du rouge partout. Une carte en feu qui paraissait sortie d'un film d'anticipation. Sauf que la réalité, on le sait, a rattrapé la fiction. Dès 2019 et puis surtout en 2022, la France a connu des canicules d'une intensité similaire à celle qu'Evelyne Delia prédisait pour 2050. Avec plus de 40, 43 degrés, parfois 44, hein, relevés à l'ombre, autrement dit, son faux bulletin météo avait en réalité 25 ans d'avance. Elle l'a d'ailleurs dit cet été à Midi Libre, c'était une fiction pour 2050 et on l'a très largement dépassé. C'est devenu la carte de température que nous avons pour après-demain.
Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a 10 ans, personne n'y croyait.
Totalement, c'était même pris à la rigolade. Ce moment médiatique se voulait être une démarche pédagogique réalisée par Météo France. L'idée était de rendre concret le changement climatique auprès du grand public pour les sensibiliser en utilisant le bulletin météo, donc un rendez-vous quotidien, un rendez-vous populaire pour faire passer justement un message d'alerte. Et depuis quelques années, chaque été, avec les météos caniculaires que l'on vit, ce bulletin météo refait le tour des réseaux sociaux, même TF1 le republie régulièrement sur son compte TikTok. C'est devenu une sorte de symbole médiatique de l'urgence climatique, un bulletin météo qui montre à quel point le danger s'est rapproché beaucoup plus vite que prévu.
Merci beaucoup Manon. Marion Hochely, le bulletin météo, c'est vrai que c'est un rendez-vous mythique pour les Français, c'est regardé par des millions de nos concitoyens tous les soirs. Est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent plus de prévention et de pédagogie ? C'est vrai qu'on cite toujours cet exemple de ce bulletin d'Evelyne Delia en 2014, mais depuis, ils n'ont pas fait de pédagogie comme ça ou d'effet de surprise pour nous choquer, quoi.
J'ai l'impression, alors je suis sans doute moins spécialiste que vous, j'ai l'impression que les modes de présentation de la météo ont quand même un peu évolué avec une météo climatique et peut-être un peu plus de sensibilisation sur ces sujets-là. Après, ben, c'est sûr que ça peut être toujours utile de sensibiliser en cas de forte chaleur. Après, malheureusement, je ne crois pas que les bulletins météo, c'est quand même quelque chose d'assez factuel. Je ne suis pas sûre que ça puisse vraiment changer les choses.
Oui, on ne peut pas faire une blague tous les soirs en même temps, sinon après les gens ne suivraient plus, c'est ça le problème.
Zoom, 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 Mathieu Noël sur France Inter.
50 degrés, une température jamais atteinte à Lourdes, sauf la fois où l'abbé Chibra avait organisé la soirée Cierge chaud et non en feu. Oh. Pierre Courade en est pris plein les yeux, entre autres. Alors, quelles sont les pistes pour continuer à vivre en ville quand il y fera 50 degrés ? Vous n'avez pas fini venir celle-ci. Hein. Pierre, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et c'est ça la différence entre vous et moi, Mathieu. Vous pensez à 50 degrés, c'est une orgie à Lourdes. Moi, je pense à ce que seraient devenus Marie-Ange Nardi et Thierry Beccaro sous 50 degrés à l'ombre. Voilà, une référence téléphile que je dédie à Cyril Lacarrière.
Merci.
50 degrés.
Tristesse infinie.
Absolument, 40 degrés à l'ombre. 50 degrés, c'est surtout ce à quoi on doit se préparer dans les années à venir. À partir de 2050, les étés parisiens pourraient devenir invivables et Paris-Plage ne suffira pas. C'est pourquoi il faut anticiper dans tous les secteurs. Notre invité, par exemple, est bailleur social. Marion Rochely réfléchit déjà à comment adapter les logements et la ville à ces températures extrêmes. Déjà un chiffre, s'il y a eu 14 jours de canicule en moyenne dans les années 2010, il y en aura 30 dans les années 2050. Pour continuer à vivre sans fuir la capitale, notre invité propose de s'inspirer du sud de la France, mettre des volets, changer le vitrage, installer des brasseurs d'air. Il y a aussi la technique de peindre les toits en blanc. Mais là, on se heurte aux contraintes architecturales et esthétiques, surtout à Paris, avec les toits en zinc. Paris qui cumule aussi la contrainte d'être une ville très dense, ce qui crée des îlots de chaleur. L'idée est aujourd'hui de végétaliser au maximum et de trouver des lieux pour se rafraîchir. La Seine qui s'ouvre à la baignade, c'est déjà une manière d'anticiper les températures caniculaires. Je vous recommande l'expérience, évidemment.
Merci Pierre. Et pour comprendre la blague de Pierre Fourade, je vous renvoie à la fiche Wikipédia de 40 degrés à l'ombre, émission de télévision de divertissement française diffusée chaque été du lundi 29 juin 1987 au 29 août 1997 sur FR3.
Donc c'est voilà, j'ai grandi avec ça.
C'est iconique. C'est un regard.
Alors, iconique, c'est non. Hein. C'est ça, c'est mon mot et pas pour ça. Merci.
On n'arrête pas le progrès, les amis, on n'arrête pas le progrès. Grâce à une technologie high-tech, nous avons Harold Barbet, figurez-vous, en duplex du futur. Alors, Harold, comment c'est Paris en 2050?
Ah bah c'est un peu différent. Le slogan « Paris est une fête » a été remplacé par « Paris est un four ». Attendez, laissez-moi régler mon appareil.
Ah bah c'est mieux. On n'appelle pas du futur pour avoir un son de 1960. Ça me fait plaisir de te parler, Mathieu.
Ah oui.
Je voulais te ramener à toi et au reste de l'équipe des tours Eiffel miniatures en souvenir de mon voyage à Paris en 2050. Mais elles ont fondu dans mon sac au bout de 5 minutes. En revanche, excuse-moi de te le dire, mais personne ne se souvient de Mathieu Noël en 2050. Et je crois que c'est à cause du mot Noël. C'est un concept qui n'existe plus maintenant. On s'est dit que ça n'avait plus trop de sens de fêter l'anniversaire du Christ depuis qu'on avait atteint les mêmes températures qu'en enfer. Ça me fait rire d'ailleurs, car quand je dis aux gens qu'on disait déjà de Paris que c'était l'enfer avant, ça les surprend. J'imagine qu'ils n'ont jamais connu la gare de l'Est à 23h30. Par ailleurs, pardonne-moi de te tutoyer, oui, mais ici en 2050, il n'y a plus de vouvoiement. Le respect est définitivement mort depuis que Valérie Pécresse s'est lancée dans les feuillages burlesques en 2043.
En parlant de ça, à quoi ressemble notre démocratie en 2050, Harold?
Notre quoi?
Notre démocratie.
Ah, pardon, j'avais oublié ce que c'était. Non, ça c'est fini depuis longtemps. Emmanuel Macron, on est à son 5e mandat. Il est très populaire maintenant. Il a enfin vu une de ses promesses de campagne aboutir. Grâce aux 50 degrés, il n'y a plus un seul sans-abri dans les rues de Paris. Et tu sais qu'il n'y a pas que le temps qui a changé en 2050, Mathieu. Les temps ont changé tout court. Il y a beaucoup d'entraide sous 50 degrés. Par exemple, il est encouragé de faire pipi depuis le haut des ponts sur les touristes en bateau-mouche pour les aider à se rafraîchir. Ah, c'est Cyril qui serait content s'il était encore en vie. Il s'est fait arrêter pour ça en 2025, mais finalement, il aura été précurseur. Les mentalités ont beaucoup évolué, tu sais. Je me souviens, en 2024, les gens hésitaient à se baigner dans la Seine. Maintenant, pour économiser l'eau, les siphons de lavabo servent de gourde aux enfants pour les sorties scolaires. Bon, l'ennui, c'est que la qualité de l'eau pose énormément de problèmes de diarrhée. Surtout chez les plus jeunes. Tu pourras dire à Quentin qu'il faut qu'il tienne le coup encore quelques années. Son petit souci quotidien deviendra la norme d'ici 2050. Mais je t'avoue, Mathieu, que c'est pas toujours simple. L'argent est un vrai problème. En 2050, quand on a de la caillasse, on n'emmène plus sa petite amie dans un restaurant chic. On privatise un pédiluve à la piscine municipale. C'est la grosse tendance. D'ailleurs, Mathieu, figure-toi que tu m'as emmené au pédiluve pas plus tard qu'hier. Tu étais content car tu as retrouvé un ongle de gros orteils de ton côté. En 2050, avec la pénurie des matières premières, on s'en sert pour fabriquer des prothèses dentaires. Ça vaut une fortune.
Mais comment se déroulent les conditions de travail en 2050 sous 50 degrés?
Ah, le travail en extérieur est très dur. Pour les agriculteurs et les travailleuses du sexe, par exemple, la chaleur provoque bon nombre de déshydratations. En ce qui concerne le travail en intérieur, ça n'a pas tellement changé. Un boulot de merde mal payé, bon bah ça reste un boulot de merde mal payé. Sauf qu'en plus, on a chaud. Ça aura au moins permis de déstigmatiser ce collègue de travail qui sent la transpiration. Ça concerne tout le monde maintenant. Donc vous pouvez d'ores et déjà être un peu plus cool avec Manon. C'est pas de sa faute. En fait, Mathieu, en 2050, tu es encore plus riche qu'en 2025. Peut-être que tu pourrais me faire un petit virement dès 2025 pour m'aider à tenir le coup. Le Mathieu du futur refuse de m'aider. Hein, Mathieu ? Mathieu ? Mathieu ?
Hélas, on a perdu Armand. C'est les problèmes de la technique. C'est les problèmes de la technique. Mais on le retrouve en tournée à partir de septembre du côté de Nantes, Rouen, Mâcon. Toutes les dates sur haroldbarbet.com. Évidemment, la semaine prochaine, vous êtes de retour dans Zoom Zoom. Merci Marion Chely de nous avoir expliqué comment on allait faire pour ne pas cuire en ville en 2050. Bah, grâce à vous, je rappelle que vous êtes à la tête du bailleur social Séquence. Un mot peut-être du collectif auquel vous appartenez et qui travaille sur ces questions.
Merci pour votre invitation.
Vous voulez pas dire un mot du collectif ?
Un mot du collectif, pardon. Oui, bah effectivement, donc comme je le disais au début, on se dit qu'on sera plus fort si on travaille ensemble. Donc aujourd'hui, nous sommes deux initiateurs de ce collectif. Donc Séquence, qui est un bailleur du groupe Action Logement, et CDC Habitat, qui est le bailleur social de la Caisse des dépôts. Nous travaillons aussi avec d'autres acteurs, des bureaux d'études, l'université Gustave Eiffel, un certain nombre de chercheurs, des promoteurs aussi.
Et nous, vous, combien vous gérez de logements déjà ?
On gère 107 000 logements.
107 000 logements.
Et peut-être simplement ce que je voulais dire, c'est que c'est un collectif qui est ouvert. Donc,
je pense
peut-être un petit appel. S'il y a des personnes qui travaillent dans le secteur du bâtiment qui ont envie de travailler avec nous, nous serons ravis de travailler ensemble. Zoom, zoom, zen.